Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous rappelle donc Genèse chapitre 3 et à partir du verset 7. C'est après la chute d'Adam et Ève, et voilà qu'il s'est produit quelque chose de particulier. Les yeux de l'un et de l'autre, entendez par là d'Adam et de Ève, s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers sur le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » parce que je suis nu et je me suis caché. Ce que nous allons retenir de cette lecture, c'est cette interpellation de Dieu « Où es-tu ?». Alors nous allons faire une deuxième lecture qui va faire en quelque sorte la complémentarité et dans un autre contexte tout à fait différent. C'est dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 2. Et nous allons, en effet, faire la comparaison à travers cette première interpellation avec une autre. Et je vais m'expliquer ensuite. Alors, Matthieu, chapitre 2, versets 1er et le second. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Deuxième remarque, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Alors, on va développer un peu tout cela, et je voudrais simplement dire quelques mots sur notre précédente lecture. Il y a là comme une illumination dans les yeux des hommes et dans le cœur des hommes qui va se faire au moment où, le péché va être consommé. Ils vont avoir les yeux ouverts. Et c'était un peu les promesses, qui promesses mensongères qui avaient été données par le diable, mais si vous désobéissez à votre Créateur, vos yeux s'ouvriront, vous aurez la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez pas, et imaginez-vous, vous serez comme Dieu. Alors ça, c'est vrai que ça pique quand même la curiosité pour être rendu semblable à Dieu, et puis d'avoir la connaissance de toute chose, et en plus, qui plus est, d'avoir en prime la vie éternelle. Et vous avez remarqué, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Mais au lieu de voir, au lieu de s'apercevoir, au lieu d'être dans cette vision positive, bénéfique, de cette grâce de Dieu qui, normalement, leur avait été tout simplement acquise, parce qu'ils l'avaient déjà auparavant, quelque part, ce n'est pas la lumière qu'ils vont voir, c'est les ténèbres. À ce moment-là, au niveau de leur vie profonde, au niveau de tout leur environnement, tout va devenir flou et opaque, en quelque sorte. Alors, leurs yeux se sont ouverts, et là, ils se sont aperçus des réalités qu'ils n'auraient jamais dû connaître. D'abord, la nudité, mais c'est pas seulement une nudité physique, même si c'était vraiment la vérité, mais une nudité, c'est parce qu'il y a eu, à ce moment-là, une séparation entre un avant et un après. Ce bonheur, cet idéal de vie, d'existence dans le jardin d'Éden, va disparaître. D'un seul coup, ils vont s'apercevoir que, ils se sont fait tromper. le diable, le serpent leur a menti. Alors ils ont connu qu'ils étaient nus, c'est sur le plan physique, moral, et puis surtout sur le plan spirituel, et ils vont s'empresser de se couvrir, comme s'ils avaient, eux par eux-mêmes, eh bien, les moyens de cacher ou de compenser leur faute. Alors ils ont entendu une voix qui est venue, une voix qui n'était peut-être plus la même, enfin, qui était toujours la même du côté de celui qui s'adressait à eux, mais eux, leur perception n'était plus la même. Une voix qui fait peur, une voix qui est celle de la culpabilité, de la honte, de la crainte. Et il nous est dit, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, ils l'ont reconnue, c'était bien elle. Elle, qui était une voix bienfaisante, une voix d'amour, une voix de grâce. Et les choses n'étaient plus entendues, les choses n'étaient plus vues pareil et n'étaient plus entendues de la même manière. Et il nous est dit que cette voix parcourait le jardin. Alors ils se sont cachés tout à nouveau, réaction. La peur, la crainte, cette voix qui parle. Parce que Dieu, quand il parle, cette voix-là n'est pas faite pour nous faire peur, au contraire. Pour nous dire, venez à moi. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Alors ils se sont cachés loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais tout à nouveau, Dieu les a appelés. Comme quoi, on voit toute la longanimité de ce Dieu créateur, qui ne s'arrête pas à un premier échec, mais qui appelle tout à nouveau, qui parle. Il les appela et leur dit, mais où es-tu? Où en es-tu? On pourrait peut-être dire cela. Et vous savez que cette voix, elle parle encore à travers tous les temps, les siècles, les générations, à travers toute l'humanité. Où je crois qu'autour de nous, eh bien, Dieu parle de la même manière. Pas tant à nous, parce que nous l'avons entendu, où es-tu? Et nous lui avons répondu, mais tous ceux qui sont encore en dehors, sont encore cachés derrière des feuilles de figuier, sont là dans la crainte et la peur de Dieu, sont tétanisés parce qu'ils se disent, voilà, eh bien, il va y avoir un jugement. Naturellement. Alors il les a appelés, mais il lui a dit, mais où es-tu? Et l'homme de répondre tout simplement, mais j'ai entendu ta voix. Alors on peut entendre Dieu, mais n'en rien faire. Rester dans la situation, rester dans son état, dans sa médiocrité, dans cette privation de véritable vie, que l'on appellera aujourd'hui qu'une existence, tout simplement. Alors, j'ai bien entendu ta voix. J'ai eu peur, je me suis nu et je me suis caché. Vous avez remarqué ce que j'ai fait, ce que j'ai souligné au départ. Mais où es-tu? Dieu parle à l'homme. Dieu cherche l'homme. Bien que il n'y a aucun doute à avoir, Dieu savait très bien où était Adam et Ève. Il pouvait bien se cacher au plus profond de la terre. Il pouvait bien se cacher dans les montagnes. Il pouvait bien se cacher dans ce jardin d'Éden, dont les portes bientôt allaient se refermer, mais Dieu savait. Mais c'est une provocation, en quelque sorte, pour la réaction de l'homme. Mais où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où en es-tu? Pourquoi tu en es arrivé là? Si Dieu n'avait pas parlé, Dieu n'aurait pas posé de questions, mais il a parlé auparavant. Et il fallait une réponse. Et puis nous avons cette autre page qui est quand même aussi intéressante, parce que nous ne sommes plus dans l'histoire de la création, dans la Genèse, mais nous sommes dans les temps beaucoup plus avancés, qui sont éloignés de nous depuis 2000 ans naturellement, mais c'était l'histoire de l'apparition de Jésus sur la terre. Et à travers un contexte historique assez troublé, il y a un roi en Israël. Beaucoup de chemin a été fait depuis l'histoire d'Adam et Ève. Un peuple est né, peuple d'Israël, peuple élu, peuple choisi. Et voilà que il va y avoir véritablement une scission dans l'histoire d'humanité. Mais une scission de prise de conscience, un avant Jésus-Christ qui nous ramène à Adam et Ève, et un après Jésus-Christ qui peut nous laisser encore avec les réactions d'Adam et Ève, mais si l'on le veut, il peut y avoir un monde nouveau recréé, je dis bien recréé, une recréation avec une nouvelle naissance. Avec une renaissance. Jésus étant né, nous dit Matthieu, né à Bethléem, en Judée, ce qui nous amène à penser à toutes ces centaines et ces milliers de promesses de Dieu qui appelait pendant des siècles et des siècles l'homme, mais où es-tu? Du temps du roi Hérode, des hommes qui n'étaient pas des Juifs, venus de très loin, inspirés par l'Esprit de Dieu, motivés eux aussi par une étoile qu'ils ont vue, et qui va les conduire, certainement sur des jours, des mois, à arriver à un endroit, nous l'avons cité, Bethléem, Ils sont arrivés à Jérusalem, la ville de Dieu, la ville où Dieu a dit, c'est ici que vous adorerez mon nom. Et la première chose qu'ils vont dire, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? D'un côté, il y a l'homme qui fuit, et Dieu le cherche, où es-tu? Et puis d'un autre côté, vous avez le pendant contraire, où vous avez à ce moment-là, ce sont des hommes faisant partie de l'humanité, ce ne sont pas forcément des Juifs, ce sont des mages, ils viennent de l'Orient, mais néanmoins ce sont des créatures, ce sont des créations de Dieu, et ces hommes vont venir dans cette ville précisément, c'était bien la ville où on pouvait poser cette question naturellement. Et ils disent tout simplement, mais où est le roi des Juifs qui vient de naître? D'un côté, Dieu cherche, mais il ne cherche pas, si vous voulez, puisqu'il sait tout. Et puis d'un autre côté, il y a des hommes qui tâtonnent, qui marchent non pas à la lumière du soleil, mais qui marchent la nuit. Qui marche dans la nuit, parce que les étoiles, figurez-vous, elles ne brillent que la nuit, hein. Et qui pourtant vont arriver au but, parce qu'ils sont motivés par quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui est incompréhensible, et dont on ne peut pas expliquer, naturellement. Et ils vont arriver là. Et dans cet endroit-là, ils vont poser cette question. C'est un écho à cette parole qui avait été posée des siècles et des siècles, des millénaires auparavant, enfin des siècles en tous les cas. Mais là, c'est l'homme qui cherche, l'homme qui a besoin de Dieu. L'homme qui soupire, l'homme qui revient, l'homme qui est en aspiration profonde de Dieu. Où es-tu? Où en es-tu? Mais montrez-moi, dites-moi où je peux trouver Dieu. Et voilà que vous avez cette réponse qui est extraordinaire. Jésus la donnera dans l'évangile de Jean, quand il dira, et qu'il répondra à deux de ses disciples, quand il dira ceci, quand un des disciples dira ceci, eh bien montre-nous le Père. Et Jésus, cette parole admirable, merveilleuse, incomparable et sublime, dira, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a vu le Père. Jésus est véritablement ce Dieu, rendu visible dans la corporalité, par la corporalité, pour se montrer aux hommes, tel qu'il est. Le chemin, dans la vérité, pour leur communiquer la vie, ce chemin qui mène à Dieu. Donc le tour est fait là, le tour est fait. Et ce « où es-tu » c'est bien la question qui perdure à travers tout l'Ancien Testament. Les hommes tâtonnent, ils n'ont pas encore la grâce, ils marchent par la loi. Mais néanmoins, certains peut-être plus avisés, plus éclairés vont fonctionner avant même le temps de l'évangile, par la foi et par la grâce, des hommes comme David, comme Abraham et des autres. Et Dieu cherche l'homme perdu à ce moment-là. Il va prendre un peuple pour montrer l'exemple, un peuple témoin, un peuple témoignage, qui ratera sa mission complètement, hein. Mis à part quelques exceptions. Et ce « où es-tu » c'est l'appel à la conscience, parce que on vient de le voir, le péché vient d'être commis, et l'homme se cache, il est nu, il ne sait pas ce qu'il va faire, il a honte. Ouais, mais Dieu a mis quelque chose dans le cœur des hommes à ce moment-là, supériorité de l'homme sur l'animal, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, et quelles que soient les théories, ou tout simplement tout ce que les hommes ont pu inventer, qui est en conflit entre le créationnisme et l'évolutionnisme, l'homme est l'homme, l'homme n'est pas un animal, ou dans une certaine mesure peut-être, dans ses comportements oui peut-être, certainement, mais Dieu a mis une petite boussole dans son cœur, parce que comme il cherche, il lui a mis ce qu'il fallait pour répondre à cet appel de Dieu. Cette boussole, c'est la conscience, qui lui permet de discerner le bien et le mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors à ce moment-là, à travers tous ces siècles d'ignorance, de l'ancienne alliance, eh bien il va se frayer un chemin, il va chercher désespérément. Et ceux qui fonctionnent par l'esprit vont trouver. Puisqu'il y a quand même des témoignages extraordinaires dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où vous avez des hommes qui vont rencontrer Dieu, qui vont faire des expériences, autrement on n'aurait pas ce livre qui est la Bible, hein, naturellement. Ils étaient un peu dans les ténèbres, un peu la lumière qui marche devant nous, hein. Mais c'était les choses à venir. Ils ne pouvaient voir et ne pouvaient prétendre qu'à des choses qui allaient venir. Elles n'étaient pas encore faites. Alors, où es-tu? Et aujourd'hui, les hommes se posent la question dans la deuxième proposition, en parlant de Dieu, ils disent « Mais où est-il Dieu ?» Voilà, il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu, ça c'est clair. Il y a des gens qui ne s'embarrassent pas avec ce fait de l'existence de Dieu. Mais moi je crois que quelque part, Et quels que soient les clivages et les religions, quelles que soient les latitudes sur cette terre, il y a des gens qui sont vraiment préoccupés. Vous vous souvenez de ce jeune homme qui vient avec un besoin brûlant dans son cœur, mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Vous avez un Zachée également, qui va dégringoler rapidement de son arbre pour dire « mais je t'offre ma maison, je t'ouvre mon cœur ». Puis il y en a d'autres comme ça qui courent, qui accourent. Oui, des dizaines, des centaines, même des milliers nous rapportent le message de l'Évangile. Parce qu'ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de trouver la vérité, ils ont besoin de, dans un monde d'injustice et de méchanceté, ils ont besoin de trouver la justice. Pas seulement des principes de justice, mais celui qui est la justice même, la vérité même. Celui qui peut nous donner eh bien, la consolation dans nos peines, qui peut nous rassasier de toutes nos faims et de toutes nos soifs, nous désaltérer. Alors après le « Où es-tu ?» Alors les hommes répondent « Mais où est-il ?» C'est notre histoire à chacun, n'est-ce pas? Eh oui. Bien sûr, nous avons été là, eh bien, contingentés dans une religion parce que nous ne l'avons pas choisie. On nous a parlé plus ou moins de Dieu. Ça a certainement fait son chemin pour certains. Pour d'autres, ça les a complètement dégoûtés. Ne me parlez pas de Dieu parce que si c'est ce que l'on m'a dit, si c'est ce que l'on m'a présenté, surtout, moi je crois qu'il n'existe pas. Mais il y a des hommes qui ont aussi découvert à travers un cheminement où il y en a certains qui sont nés dans le contexte de l'Évangile, baignés dans l'Évangile. Alors ils n'ont pas trop de questions à se poser parce qu'ils sont nés dans ce contexte. Ce sont des privilégiés ceux-là, ce sont nos enfants de chrétiens, vous comprenez? Où est-il? La question des hommes, entre autres des mages, dont la réponse nous l'avons dans le Nouveau Testament. Toute la réponse nous l'avons à travers, eh bien, ce que nous rapportent ces quatre témoins oculaires, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ils vont nous présenter finalement, eh bien, ce qui est Dieu, qui est-il? Pour Matthieu, c'est le roi des rois, le roi d'Israël est le roi des rois. Pour Marc, il présentera dans son évangile, c'est le Dieu serviteur, il vient se mettre au niveau des hommes pour les servir, pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Pour Luc, c'est le Dieu de l'histoire, qui est Dieu. Oui, Luc, c'est l'historien, hein. Pour ça que les quatre évangiles, on dirait, mais c'est une compilation, c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Chacun apporte finalement la révélation du visage de Dieu, du caractère de Dieu. Et puis Jean, c'est l'apothéose, parce que quand vous lisez l'évangile de Jean, vous trouvez que là, la réponse, elle est très claire. C'est ce Dieu que vous cherchez, puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Où est-il? Où es-tu, Seigneur? Mais où est-il? Qui est-il? On pourrait peut-être multiplier. Et le Nouveau Testament nous donne ses réponses. C'est la révélation de Jésus-Christ, tout simplement. Ensuite, les choses se poursuivent dans l'histoire, parce que les hommes sont en cheminement. Soit ils s'en vont dans la mauvaise direction, ils vont vers la mort, et puis il y en a qui sont préoccupés par cette grande question de la vie éternelle. D'où nous venons? Qui sommes-nous? Et où nous allons? Alors, Dieu continue à inspirer des hommes pour écrire. L'écriture de l'Ancien Testament a été faite par des dizaines et des dizaines d'écrivains inspirés. C'est formidable, c'est un trésor, une bibliothèque. On est compte? Et puis, nous avons dans le Nouveau Testament, eh bien, aussi des hommes qui vont se lever. Il y en a quatre premiers dont je vous ai cité. Mais après, vous avez d'autres livres. Vous avez un homme extraordinaire qui nous parle de Jésus et qui nous dit où est Jésus, qui nous dit qui est Jésus. C'est l'apôtre Paul. 13 lettres. C'est pas mal quand même, hein? Et puis après, vous avez des gens comme Jacques, vous avez Pierre, vous avez Jean avec son Apocalypse. Vous avez le livre des Actes des Apôtres qui est aussi inspiré par Dieu à un homme qui s'appelle Luc. Voilà, l'histoire. Tout simplement. Et cette question a traversé les temps. Elle a traversé toute cette période que l'on appelle la période évangélique dans ses premiers jours. Ce que je vous ai cité il y a un instant. Et ils ont consigné finalement dans le Nouveau Testament, cette fois-ci c'est le Nouveau Testament, mais par-delà les évangiles, ce que l'on appelle les épîtres. Et c'est en lisant la Bible qu'on découvre qui est Dieu. Où est Dieu et qui je suis moi en tant qu'homme? Alors les réponses sont là autour de nous. Et puis pour clore ce livre extraordinaire, mais c'est pas fini, j'ai pas terminé la prédication, mais pour clore ce livre extraordinaire qui nous parle et qui répond à ces questions, mais où es-tu? Nous dit Dieu. Et l'homme dit, mais Seigneur, eh bien montre-nous où il est, ce Christ et ce Dieu-là. Il y a enfin l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est le pendant de la Genèse. Tout s'est effondré au début. Et tout repart finalement vers quelque chose de nouveau avec l'Apocalypse. Pas pour tout le monde. Ceux qui refusent, ceux qui sont hostiles, ceux qui sont incrédules, ceux-là n'auront pas part à cette révélation. Ils ne comprendront jamais. D'ailleurs, ça ne les préoccupe pas. Même le livre de l'Apocalypse nous dit qu'une partie de l'humanité dans les derniers temps, au moment où les choses iront, seront portées à leur comble, eh bien, pour ne pas voir Dieu, pour ne pas entendre Dieu, il nous est dit qu'ils feront une prière. Et ça ne sera pas une prière à Dieu, ça sera une prière au ciel, une prière contre eux-mêmes, une prière de malédiction sur eux-mêmes. Ils diront, mais que les montagnes et les rochers tombent sur nous afin que nous ne voyions pas celui qui vient. C'est pour vous dire la qualité de leur foi, hein, de leur révolte, de leur rébellion. Mais les autres nous, les autres qui attendons, les autres qui soupirons, les autres qui aspirons profondément à quelque chose, à cette réponse, Seigneur, nous faisons partie de la race d'Adam. Et nous sommes un peu comme Adam, où tu nous as dit un jour, où es-tu? Et tu nous as fait la grâce de te répondre favorablement. Et nous t'avons troublé. Nous t'avons découvert, Seigneur. Ouais. Puis dans ce cheminement, eh bien, nous avons posé la même question que les mages. Mais où est-il pour que nous puissions l'adorer? Où est-il celui qui, finalement, est né? Parce qu'il est né, Jésus. Il est passé par la naissance, pour nous, nous faire passer par la nouvelle naissance, parce que nous avons déjà eu une naissance naturelle. Mais il y a quelque chose qui va naître dans notre cœur, c'est une vie nouvelle. Le défi qui a été lancé à Dieu par Adam dans sa chute, eh bien, est relevé par celui qui est né ce jour-là à Bethléem. Insignifiant, un enfant, qu'est-ce qu'il peut faire pour des hommes, un enfant? Oui, mais cet homme, cet enfant, deviendra un homme. Quand il va grandir selon les principes de l'humanité, mais n'y voyons pas qu'un homme, nous pouvons y découvrir ce Dieu sauveur et ce Dieu de grâce et ce Dieu de miséricorde, à tel point qu'il va nous montrer cette grâce et son amour en mourant à la place de chacun d'entre nous. Ça, quelle intelligence pourrait avoir pensé pour écrire un livre pareil? Quelle conception, quel programme aurait, quel homme aurait pu mettre en place un programme comme ça pour nous dire que malgré nos fautes, malgré notre corruption, malgré notre rébellion, malgré tout ce qu'il y a qui nous oppose à Dieu, eh bien Dieu a continué à nous aimer pour nous dire « Mais où tu es, viens maintenant, je veux te donner ce que j'ai préparé pour toi, viens le chercher à la maison. » Vous savez, comme le fils prodigue, il faut aller à la maison, il faut rentrer dans la maison, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de condamnation. Et là, il y aura un festin. Le festin des noces de l'agneau, hein, il se prépare. Alors, nous avons parlé d'évangile, nous avons parlé de la mission de l'Église à travers les épîtres, et ces hommes qui ont parlé justement et répondant à cette question. Et puis enfin, il y a l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, il nous est dit que Jésus est dans la gloire. Après avoir été dans l'humiliation, après avoir été dans la honte, il est monté au ciel, et aujourd'hui il règne à la droite de Dieu. Il est dans la gloire, et il revient nous chercher, et nous invite à nous préparer. C'est tout le message qui nous est donné. C'est un feu qui brûle à l'intérieur de nous. Autour de cette question, mais où es-tu? Où en es-tu? Une interpellation forte à nos consciences, pour nous dire, mais tu ne peux pas rester comme ça, parce que si tu restes comme ça, tu es perdu. Et ce n'est pas tes religions, ce n'est pas tes théologies, tes demi-conceptions qui vont te sauver, parce qu'on n'est pas sauvé par nous-mêmes, on est sauvé par la grâce, on est sauvé par la foi, sans rien faire. C'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvé, cela ne vient pas de vous. Et là, il faut bien le comprendre. On est sauvé uniquement par le salut en Jésus-Christ, par la foi dans le salut en Jésus-Christ. Alors on sait qu'il revient bientôt. Après être venu une première fois, avoir fait l'expiation de nos péchés, il revient et il nous demande de nous préparer. Alors, puisque la question subsiste, et je voudrais donner un petit prolongement, cherchez Dieu. Mais où vais-je le chercher? Si je monte au ciel, il y est, nous dit le psaume 139. Si je descends sous la terre, il y est. Si je vais en Orient, il y est. Si je vais en Occident, au Nord, au Sud, enfin tout ce que vous voudrez dans tous les points cardinaux, il y est partout. Donc Seigneur, montre-toi, manifeste-toi, révèle-toi. Alors ça c'est le où. Quand, Seigneur? Je pourrais peut-être formuler dans ma prière en disant « Mais Seigneur, je t'ai attendu si longtemps. » Et Dieu pourrait nous répondre « Et moi donc ?» Et moi donc, je t'attends depuis toujours. Tu ne sais pas que je t'aime? Tu ne sais pas que ton péché, le mal qui est en toi est en train de te détruire? et qu'au lieu de perdre ta vie, au lieu de te consumer dans toutes sortes de rêveries, de toutes sortes d'illusions, mais moi je t'attends. Et comment peux-tu faire? Comment? Chercher Dieu, mais comment? Ben écoutez, on l'a déjà défini, je ne veux pas trop m'étendre sur la question, puisque nous avons vu que la trame de notre chemin, l'itinéraire, nous a déjà été dépeint, quelques paroles que nous avons déjà échangées. Alors je répondrai peut-être par deux ou trois petites appréciations qui nous sont données dans la Bible. Cherchez Dieu, mais la manière de le chercher, la façon, si vous aimez mieux, doit être sincère et honnête. Ce ne sont pas les hypocrites qui trouvent le Seigneur. Ce ne sont pas les faux fuyants. Ce ne sont pas ceux qui sont, excusez-moi l'expression, c'est pas très beau, mais des combinards. Il y a un principe de vérité, principe d'honnêteté, de droiture de cœur, de rectitude, morale. Il y a un passage qui m'a surpris, et je voudrais le partager avec vous, pour nous montrer que, alors ça se trouve dans le livre des chroniques, vous savez les chroniques, hein, il y a deux livres comme ça, au chapitre 28 et au verset 9, il est dit ceci, parce que c'est intéressant de prendre aussi pour étayer, il s'agit de Salomon. Ah, Salomon a eu un très très bon départ dans la vie, il a eu une vie où il est sorti de la route, hein, il y a une sortie de route, mais ce sont les instructions que David, avant sa mort, va lui donner. En quelque sorte, avant de mourir, David, il va lui dire ces paroles. 28 et le verset 9, il dira « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Connais. Le Dieu de ton père doit devenir ton Dieu. Ce n'est pas le Dieu des autres, ce n'est pas le Dieu de ton père maintenant. C'est ton Dieu à toi. Expérience personnelle du salut. Et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Moi, je trouve que ce sont des belles paroles, hein. Parce que finalement, personne n'est obligé. C'est un désir et c'est un choix personnel. Alors serre-le, ce Dieu de ton Père, qui sera le tien, qui deviendra ton Dieu à toi, d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Alors si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ça, c'est la loi, hein, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, la grâce, elle a couvert tout ça, mais toujours est-il que le principe, il reste le même. Vous avez compris ce qui est dit? Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. C'est comme si Dieu était caché quelque part, et qu'on le cherche dans le fond du jardin, ou dans une rue noire, hein, dans une rue toute sombre, et à un moment, voilà, que je le cherche, et au coin, dans un angle de rue, il me dit « Coucou, c'est moi ». Quelle surprise! Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Non, parce que Dieu ne joue pas. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que parce que je fais faire la démonstration que j'ai besoin de lui, que je l'aime, que je veux le servir, que je veux faire quelque chose pour lui, alors il dit, mais écoute, regarde, tu me cherches, tu ne m'as pas vu encore, mais je suis tous les jours avec toi. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Et il y a des étapes dans la vie où quelquefois c'est une véritable révélation qui se fait dans notre existence. Ouais. Si tu le cherches honnêtement, si tu le cherches de tout ton cœur, si véritablement tu es sincère, parce que je voudrais quand même signaler une chose, c'est qu'on peut être sincère dans l'erreur. Hein. Et il y a des gens qui sont extrêmement sincères dans l'erreur, en politique, en matière de religion, en matière de toutes sortes de choses, ils sont sincères, mais ils ne sont pas dans la vérité pour autant. Ouais, une belle histoire que Salomon et des paroles de David. Eh bien, il se laissera trouver par toi. Où es-tu? Qui est-il? Et puis, chercher Dieu, c'est aussi un autre livre qui nous en parle, parce que la prière vraie en est le moyen. C'est pareil, on chasse toutes les ambiguïtés, tous les faux fuyants, on chasse toute l'hypocrisie, c'est pas possible. Et dans le livre d'Esdras, toujours à peu près dans les mêmes zones de notre Bible, il est donné justement ce conseil, pertinent me semble-t-il, au chapitre 8 et au verset 22, il est dit ceci, nous allons le reprendre. Voilà, c'est Esdras qui va rentrer dans le pays, dans son pays, il est captif, il est en exil, et il va rentrer avec toute une troupe d'Israélites, parce que Dieu leur ouvre la porte, pour retourner dans le pays d'Israël. Mais il y a une question qui se pose, et je vais lire à partir du verset 21. « Alors que nous étions près du fleuve d'Ahava, Je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Oui, parce que c'était périlleux à l'époque, les voyages. Il reste toujours autant hein, aujourd'hui. Mais il y avait des voleurs, il y avait des bandits sur la route et ils se disaient devant la troupe qu'ils devaient conduire et ramener à Jérusalem qu'il y avait des risques. Alors, ils ont proclamé un temps pour prier Dieu, pour dire « Eh bien Seigneur, tu nous accompagnes, tu es avec nous. » Parce qu'il ajoute ceci « J'aurais eu honte de demander au roi, qui le libérait à ce moment-là, une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avons dit au roi « La main de notre Dieu » et pour leur bien, et pour le bien, leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais la force et sa colère sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de ça que nous avons prié, que nous avons jeûné, et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Chercher Dieu passe par la prière. Chercher Dieu passe par un temps où nous nous mettons de côté, nous essayons de faire le vide de toutes nos préoccupations, nous faisons cesser tous les bruits qui sont à l'extérieur et ils font un tel ramdam, un tel tapage que nous n'entendons plus Dieu parler. Et ça c'est bien notre monde d'aujourd'hui naturellement. Et le moyen finalement de rencontrer Dieu, de trouver Dieu, d'avoir la réponse à cette question, eh bien c'est une prière vraie, une prière qui est le moyen de nous approcher. Combien Jésus nous donnera-t-il l'encouragement et l'exhortation que vous avez dans les paraboles, hein? La prière. Persévérer, voilà comment il faut faire, de ne jamais nous relâcher, etc., etc. Oui, trouver Dieu passe nécessairement par la prière. La prière, c'est important. Et puis, dans le psaume 34, devant peut-être les difficultés, les problèmes, les frayeurs de la vie, de la route, eh bien nous avons cette... Psaume 34, verset 11, où il est donné ce beau passage que vous connaissez. Le verset 11 nous dit ceci. Les lionceaux éprouvent la digénète et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Eh oui. Dieu que nous cherchons nous conduira vers lui. Et il nous conduira pour que nous trouvions la plénitude et l'abondance qui est en sa présence. Ça, c'est aussi, eh bien, certainement un mobile pour pouvoir nous approcher de lui. Que dire encore? Je vous parlerai du livre des Actes, des apôtres, simplement. Au verset 17, pour répondre à cette question, dans cette préoccupation qu'il peut y avoir, préoccupation des hommes de ce temps-là et des hommes de toujours. Actes 17, verset 27, il est donné cette note. Il nous est dit que Dieu, qui a fait les hommes sur toute la surface de la terre, sont sortis d'un seul sang. Nous sommes tous des frères et des sœurs, quoi qu'on en dise, même si nous n'avons pas la même couleur de peau et que nous ne parlons pas la même langue et que nous ne partageons pas la même religion. Une chose qui est certaine, c'est qu'il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, que tous les hommes, sous toute latitude de cette planète, cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, c'est ce que nous avons dit, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous, car il nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Dieu se fait connaître d'abord en tant que créateur, et un jour ou l'autre, lorsque nous persévérons, puisqu'il nous a donné le mouvement, l'être et la vie, eh bien il se fera connaître comme le Rédempteur. C'est autre chose. Oui. Créateur, moi créature, perdue, mais je peux à ce moment-là découvrir mon créateur dans une autre dimension beaucoup plus glorieuse et beaucoup plus grande, c'est qu'il est devenu aussi mon rédempteur. C'est que j'étais pécheur, aujourd'hui je suis pardonné et il m'a fait grâce. C'est une autre dimension naturellement. C'est autre chose. Que dire encore avant de terminer? Cherchez Dieu. Il est si près de nous, et il nous parle si souvent, le souffle qui est le nôtre, le souffle de la vie. Si ce matin je me suis réveillé, vous et moi, si nous nous sommes réveillés, eh bien, qui a pensé que c'était encore la grâce de Dieu qui faisait que nous sommes là aujourd'hui, que nous pouvons vivre, tout simplement? Parce que vous savez, la vie c'est peu de choses. Il nous est parlé d'une fleur, il nous est parlé de, tout simplement, comme d'un nuage qui paraît, qui peut disparaître en un instant. Et puis dans Matthieu, là aussi, cherchez Dieu. Un des versets les plus connus, quand Jésus dira aux hommes de l'inquiétude, aux hommes qui sont là, tourmentés par le tracas, par l'anxiété, par la dépression. Qu'est-ce que Jésus leur dira? Il leur parlera de leurs inquiétudes, comme des choses qui sont vaines, qui ne servent à rien, qui ne font que pourrir notre vie, qui ne font que détruire finalement notre existence, et qui nous enlèvent la joie et la paix. Et Jésus conclura sa grande leçon sur cette approche de sa personne en sérénité, dans la confiance et dans la foi. Il dira majestueusement cette parole: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous. Je dépose mes fardeaux à tes pieds, Seigneur. Je te remets tout ce qui me tourmente, tout ce qui me trouble, tout ce qui me perturbe. Mais j'ai bien compris de ce que tu m'as dit. La priorité, c'est bien cela. Premièrement, en priorité, en primauté, chercher premièrement le royaume et la justice, et le reste, tu vas t'en occuper. C'est chercher Dieu aussi, hein. Et si nous avons compris ça, nous avons compris une grande chose. Parce que notre marche, on ne marche plus à l'aveuglette, on ne marche plus à l'aveugle, mais on marche par la foi, bien que certains me diront, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est croire sans voir. Eh bien, c'est précisément marcher à l'aveugle, mais avec des certitudes dans notre cœur, parce que ce n'est pas notre vision qui va nous conduire, c'est pas elle qui va renforcer nos convictions et nos assurances. C'est que je marche devant des choses que je ne vois pas, mais je crois qu'elles existent, et je vais atteindre ces choses parce que le Seigneur va me les révéler. C'est ça la foi. Alors on arrête avec le reste. Moi, pour moi, la croyance religieuse n'a rien à voir avec l'Évangile, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des illusions. Mais la foi spirituelle, comme Jésus nous l'a enseigné, c'est ce qui nous permet d'atteindre Dieu, de le rencontrer et de faire de belles expériences avec lui. La foi, ce sont les choses que nous ne voyons pas. C'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas, mais dont nous savons qu'elles sont réelles. Moi, je crois que Jésus-Christ est au milieu de nous cet après-midi. Oui. Vous le voyez? Vous ne le voyez pas? Non, on ne le voit pas. Mais je m'appuie sur une promesse où il me dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Or, je crois que le monde n'est pas fini. Et aujourd'hui, le Seigneur est au milieu de nous. Et même en plus, davantage, il n'est pas seulement au milieu de nous, il est en nous, en chacun d'entre nous. Il nous l'a dit, je le crois, et c'est comme ça. C'est comme ça que nous avons découvert qui est Dieu. Je termine. Quand je dis que je termine, attention. Dans Luc, chapitre 19 et au verset 10, nous avons cette vérité qui est magnifiquement étayée, mise en relief. Quand nous lisons l'histoire de Zachée, Zachée, vous savez, qui voulait voir Jésus sans être vu. Il se cache derrière des feuilles d'un arbre. Et là, d'un seul coup, Jésus lève la tête, parce que Jésus sait tout. Il savait qu'il y avait un petit bonhomme qui faisait son nid dans un sycomore. Eh oui, il avait l'habitude des feuilles. Hein. Quand on est percepteur, on a l'habitude des percepteurs, on a l'habitude des feuilles. Les feuilles d'impôt. J'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait payer les impôts là maintenant. Ça va être le tiers. Mais toujours est-il que, enfin, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais toujours est-il que notre brave Zachée, il a reçu un appel à un moment donné. Il voulait voir Jésus, mais il voulait pas que Jésus le voie. Or, Jésus l'a vu le premier. Et pour illustrer cette belle rencontre de Jésus avec Zachée, ou vice versa, vous savez ce que Jésus dira? En parlant de Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci, oui, Zachée, hey, c'est, fallait bien que ça m'arrive. Ce Zachée, attention, est aussi un fils d'Abraham. Pourquoi était-il fils d'Abraham? Qu'est-ce qui a caractérisé Abraham? C'était sa loi, c'était ses principes moraux? Non, c'était sa foi. C'est pour ça qu'on l'a appelé le père de la foi. Et nous sommes tous descendants d'Abraham, si vous voulez, hein, par la foi, parce que nous croyons, sans preuve, mais nous croyons quand même. Et on n'a pas besoin de croire, d'avoir des preuves pour croire. Et qu'est-ce qu'il dit? Car, fils de l'homme, moi, Jésus, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je finis. Toujours dans Luc, chapitre 24. Et là, c'est l'apothéose, me semble-t-il. Parce que, en principe, les morts, on les enterre. Ils disparaissent de la vue des hommes. C'est normal. C'est normal. Et il est question de cette situation, chapitre 24, verset 5. Il s'agit des femmes, vous savez, qui sont venues au sépulcre. Et comme ces femmes ne savaient pas que penser de cela, avec naturellement un tombeau vide, on est bien d'accord. Voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles ont eu peur, vous rendez compte? La lumière fait peur, comme la lumière a fait peur à Adam et Ève. Ouais. Elles ont été saisies de frayeur, elles ont baissé le visage contre terre, mais ces hommes qui leur ont apparurent, qui n'étaient autres que des messagers angéliques, lui ont dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Eh oui, qu'est-ce qui fait notre foi aujourd'hui? C'est que nous croyons que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour nos péchés, qu'il est ressuscité, et nous croyons fermement qu'il est ressuscité, même si nous ne le voyons pas. Et cette foi dans la résurrection est notre propre résurrection aussi. S'il est ressuscité, nous ressusciterons aussi avec lui lorsqu'il reviendra. Ça, c'est une force. Force de conviction, force intérieure. Alors, tout simplement, dans notre message, Dieu dit à l'homme, « Mais où es-tu, Adam ?» Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Adam ? Est-ce que je ne t'ai pas prévenu ? Est-ce que je ne t'ai pas parlé de ne pas toucher à ceci ou à cela ? Où es-tu ? L'homme, pour ne pas répondre, se cache. Il se masque, il se dissimule. Il va avouer quand même qu'il a peur. Mais pourquoi il a peur? Parce qu'avant, on n'avait jamais peur dans le jardin d'Éden. Pourquoi avoir peur? Le mal n'existait pas. Mais là, il a peur. Où es-tu, Adam? Où es-tu? Parce que Dieu n'était pas venu pour dire à Adam, tu es condamné, tu es perdu pour l'éternité à travers ce « où es-tu ?» C'est pour qu'Adam puisse répondre et venir vers Dieu pour lui dire, écoute maintenant, j'ai péché, pardonne-moi. Et sauve-moi, ce que le Seigneur a fait. Ce que le Seigneur a fait. Et puis, dans la venue de ce petit enfant, dans cette misérable écurie de Bethléem, voilà, ce sont les hommes qui sont venus de loin. Les hommes qui sont les représentants à travers ces images de tous les hommes de tous les points, les quatre points cardinaux de la terre. Ils sont venus et ils ont posé la question, mais où est-il? Eh bien, Jésus est trouvable. Jésus est là, il est au milieu de nous. Et je dirais même, comme dans le prologue, par exemple, de l'évangile de Jean, quand il est dit que, quand Jésus a commencé par faire ses premiers disciples, vous savez, les premiers là, hein, il y a un disciple qui a dit, mais où demeures-tu? Où demeures-tu, Jésus? Vous savez où demeure Jésus? Il demeure dans sa parole. Sa parole est la preuve qu'il est vivant. Sa parole est une parole vivante, a-t-on dit. C'est la parole vivante de Dieu. Et vous savez, si on est réunis cet après-midi, c'est pour vous parler d'un Jésus qui est présent, même s'il est absent, mais qui parle encore, qui parle toujours, et qui parle encore, et qui parlera encore longtemps. Autant que, finalement, il ne sera pas revenu sur la terre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous fasse du bien. En tous les cas, mes frères et sœurs, rassurez-vous, le Seigneur, il est vivant. Et il est présent. Et il nous bénit les uns et les autres. On va prier maintenant, simplement. Seigneur, je veux te rendre grâce et je te remercie parce que à ces questions essentielles, fondamentales, lorsque Dieu cherche l'homme, ce n'est pas pour le condamner, c'est pas pour le mettre au tribunal, ce n'est pas pour, en effet, le juger et, en effet, exécuter cette sentence, mais c'est pour lui dire tout simplement, viens à moi, toi qui es chargé et fatigué, et je veux te donner non seulement le repos, mais je te donnerai le salut de Dieu. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour des milliers et des milliers de personnes. Et c'est pourquoi cette parole a été apportée cet après-midi. Et puis, je crois que nous allons à la rencontre aussi, Seigneur, à travers tous les temps, les siècles, des hommes qui errent dans le monde et qui se disent, mais où est-il? Où est-il ce Dieu? Eh bien, tu nous as montré que il n'était pas, Seigneur, dans un endroit particulier. Il n'était pas, Seigneur, là, en effet, sorti de l'esprit ou de l'invention de la pensée humaine. Mais ce Dieu, il est vivant au milieu de nous par sa parole. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es venu parler aux hommes, ceux qui reçoivent ta parole, ceux qui croient à ta parole. Cette parole suscite la foi. Et Seigneur, la foi suscite la prière. Et la prière nous amène à l'exaucement. Et le plus grand des exaucements qu'un homme puisse trouver, c'est de découvrir que Dieu non seulement existe, mais qu'il est vivant et qu'il est puissant, qu'il est miséricordieux, que c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu de vérité et de justice. C'est un Dieu de grâce, c'est le Dieu de l'éternité. Merci mon Dieu, tu bénis ta parole dans nos cœurs. Merci Jésus et sauve des âmes, précisément par la parole vivante de la révélation de Jésus-Christ, qui demeure et qui reste le chemin, la vérité et la vie, et qui nous permet de venir au Père. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.